Je vois des yeux qui compatissent. À partir du moment où quelqu'un dans l'entourage, qu'il soit scolaire ou qu'il soit familial, a repéré ou s'est posé la question de se dire tiens, est-ce qu'il ne serait pas dyslexique, vous commencez un parcours du combattant qui est long et semé d'embûches. Il va falloir faire des bilans. Alors il faut passer dans les mains de l'orthophoniste pour faire un bilan orthophonique. Et s'il est précoce, parfois le premier bilan de l'orthophoniste, il ne va rien donner. Donc vous reviendrez l'année prochaine. Des fois même, on vient encore en troisième année, hein, avec les tickets. Parce que chez les précoces, ben, la compensation se fait parfois pas trop mal et on voit bien qu'il y a des difficultés. On entend bien en discutant que c'est laborieux, c'est compliqué, mais dans nos tests, ça n'apparaît pas. Et tant que ça n'apparaît pas, on ne peut pas faire grand-chose. On peut prendre en rééducation, mais pour la reconnaissance officielle, ça reste compliqué. Donc on va aussi passer, mais là, pour savoir qu'ils ont été pris, qu'ils sont précoces, ils y sont déjà passés par les mains du psychologue pour le bilan psychométrique. Il faut aussi, on vous l'a dit tout à l'heure au début, écarter certaines pathologies. Il ne faudrait pas qu'il ait des problèmes parce qu'il n'entend pas. Donc on va chez l'ORL et on retire une attestation de bonne audition. Puis on va aussi chez l'ophtalmo pour retirer une attestation de bonne vision. Parce que parfois, on découvre que l'enfant ne voit pas bien, myopie ou autre chose. Mais on peut aussi aller chez l'orthoptiste, parce que pour tous les problèmes de balayage, visio-attentionnel, là, c'est plutôt l'orthoptiste qui va les dépister. Et il y a certaines dyslexies qui s'appellent dyslexie visio-attentionnelle. Donc, on va aussi faire un bilan chez cette dame-là. Et on peut aller consulter la graphothérapeute quand il y a des problèmes d'écriture ou l'ergothérapeute. Ça fait déjà beaucoup de bilans. Ça fait beaucoup de choses. Une fois que vous avez lu,
mais avant de passer par là, avant d'aller faire tous ces bilans, on s'est posé plein de questions, on s'est interrogé, on s'est pris plein de choses autour de soi, on a fait des remarques, on a entendu des remarques, l'enfant a entendu beaucoup de remarques sur lui, sur son comportement, sur son travail et sur son entourage. Et ensuite, il va faire tous ces bilans dans ces conditions-là.
Avec souvent un grand sentiment de dévalorisation ou en tout cas d'incompréhension entre pourquoi ça marche à l'oral, pourquoi ça ne marche pas à l'écrit, parce que souvent l'écart est énorme. Avec tous vos bilans en poche, vous allez soit remettre au médecin scolaire, s'il y en a un dans l'établissement, ces bilans et il validera la dyslexie. S'il n'y a pas de médecin scolaire dans l'établissement, on adresse au service de promotion pour la santé des élèves, c'est ça ? Ou alors au 1045, on peut aussi, quand ils ne sont pas trop surchargés, avoir une consultation et pouvoir retirer un certificat médical qui atteste du trouble spécifique d'apprentissage du langage écrit. Une fois que vous avez votre certificat médical, on demande l'équipe éducative. Qui a pour but de définir les aménagements pédagogiques nécessaires à mettre en place pour aider à compenser les difficultés. Donc, on voit passer les sigles PAI, PP10, PPS, PPRE. J'avoue que je ne fais pas bien la différence entre tous, mais ils ont tous un but, c'est de lister ce qui est nécessaire pour l'enfant, pour l'aider à compenser en classe au quotidien. Et normalement, ce protocole est pérenne. Alors, je l'ai mis en rouge parce que parfois, on attend que le médecin scolaire revienne dans l'établissement. Ça n'arrive pas toujours le jour de la rentrée pour remettre en route les aménagements et l'enfant, lui, tant que le médecin scolaire n'est pas passé, il galère. Donc, normalement, un PP10, une fois qu'il a été fait, il est pérenne, il doit se reconduire automatiquement à partir de la rentrée pour toute l'année et le médecin, quand il passe, vient juste réajuster en fonction des progrès ou des difficultés qui réapparaissent supplémentaires. D'autres aménagements qui pourraient être nécessaires pour l'aider. Et on a le droit de le demander si ça n'est pas fait. Oui ? Non, il est pérenne. Ça veut dire qu'une fois qu'il a été établi, que le diagnostic est posé, qu'une première fois des aménagements ont été mis en place, ils sont valables et reconductibles chaque année. une réunion avec le médecin scolaire dans l'année, si c'est nécessaire, permettra de réajuster en fonction des progrès ou en fonction des difficultés supplémentaires qui s'ajouteraient. Mais de toute façon, il est reconductible. Donc il doit être reconduit. On n'attend pas que le médecin vienne au mois de décembre pour se dire entre septembre et décembre on ne fait rien parce qu'on ne sait pas, lui il est toujours dyslexique. Donc, ça, ça ne quitte pas. Je rappelle qu'on est NAIT dyslexique. On meurt dyslexique. Et entre les deux, on vit avec sa dyslexie. On ne s'en sépare pas. Vous avez tous entendu ?
Non.
Alors, madame disait que dans l'enseignement, on manquait de médecins scolaires actuellement dans le département, donc il a été mis en place la possibilité de le faire avec l'infirmière scolaire de l'établissement qui remet à jour avec l'équipe et les gens qui encadrent l'enfant les PP10 pour lister les besoins que ces enfants ont.
Mais pas pour les nouvelles situations.
Pour les nouvelles situations, pour les nouveaux enfants dépistés, c'est le médecin scolaire qui intervient.
Simplement pour vous dire également, là on parle des enfants précoces dyslexiques reconnus, bien sûr, mais dans les classes, vous avez des enfants précoces reconnus, mais pas reconnus dyslexiques et qui sont en difficulté ou pas encore en difficulté. Et il faut quand même qu'ils s'accompagnent. Donc, lorsque l'on parle de diagnostiquer et de reconnaître la dyslexie, c'est comme reconnaître la précocité, c'est reconnaître la difficulté de l'enfant et son besoin d'être accompagné pour pouvoir apprendre dans de bonnes conditions.
C'est reconnaître ses particularités et ses difficultés. Oui, parce que parfois...
Alors moi je vais intervenir en tant qu'enseignante, en IEV, pour vous dire quels sont les aménagements qu'on peut mettre en place justement pour aider au quotidien les enfants dans nos classes, avec tout ce qu'on a entendu par rapport aux difficultés de lecture et d'écriture. Alors voilà, ce travail il a été fait en lien avec un professeur de collège, de façon un petit peu à travailler sur une classe d'âge beaucoup plus importante. Alors, ce qu'il en ressort par rapport à ces aménagements, dans un premier temps, c'est déjà la situation de l'enfant en classe, à savoir de le placer au centre de la classe, face au tableau, de façon à ce qu'il soit dans de meilleures conditions possibles, et cela pour maintenir sa concentration, sa vision, et puis aussi pour privilégier les interactions avec l'enseignante. Donc, sa position dans le cas au sein de la classe va être importante. On va favoriser avec ces enfants le travail à l'oral au niveau des évaluations dans certaines matières et puis une fois de plus aussi pour maintenir l'attention, la présence, je dirais, en classe. Ces enfants qui peuvent peut-être s'évader des fois un peu plus parce que l'écrit les dépasse un petit peu. On va, et je reviendrai à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport justement à l'écrit, on va essayer de faciliter la lecture des traces qu'on va leur proposer en adaptant nos outils. Et pour cela, par rapport aux textes qu'on va proposer, on va proposer des textes dactylographiés qu'on va avoir présentés différemment, on va les aérer davantage. On va utiliser, grâce aux outils informatiques, des polices qu'on a remarqué plus adaptées. Donc on utilise Verdana ou Comic MS, avec un interligne de 1.5, et on a remarqué aussi qu'en espaçant davantage les caractères, cela facilitait la lecture pour ces enfants-là. Donc il suffit à l'enseignant de présenter ses textes différemment.
Il y a une police de caractère qui s'appelle Open Dyslexique aussi, qui permet qu'on peut télécharger gratuitement et qui s'installe automatiquement sur Word, et qui permet justement, elle a été étudiée spécialement pour ça, qui facilite la lecture pour les enfants dyslexiques. Oui.
Je dis très souvent en enseignant,
Ça serait bien.
Parce qu'il lit dans toutes les disciplines, donc du coup, si on lui facilite la lecture dans toutes les disciplines, et mieux ce sera, oui.
Oui.
Il est judicieux de grossir les caractères, de les aérer, en hauteur, mais de les espacer les uns aux autres, de les écarter, et donc d'utiliser une police généralisée à tous les cours.
Et parfois, ils sont plus à l'aise dans une police que dans une autre. Donc, en fonction de l'âge des enfants, c'est de leur proposer des écrits et puis, finalement, à la lecture, lui dire, bah, tu préfères que ce soit comme ça ou comme ça, et puis on adapte. Oui. Oui.
Ça reste du code écrit, donc du coup, oui, ça leur facilite la vie. On vous a brossé un tableau de la dyslexie très succinct, mais il entre en jeu dans la dyslexie des choses bien plus complexes, mais là, on n'a pas assez de temps pour vous les exposer au niveau de ce qui est visuel, de ce qui est attentionnel, de nombreuses choses. Donc plus c'est espacé, plus c'est grossi, et plus ce sera facile pour l'enfant.
Pour l'espacement,
Moi, j'utilise souvent 1,5 aussi. En fait, je rentre dans les paramètres avancés mes textes, et puis, mais bon, encore une fois, c'est avec mes élèves quand je leur pose la question, parce que je suis en cycle 3, et puis arrivé en cycle 3, ils arrivent déjà un petit peu à s'exprimer par rapport à ça. Donc, voilà. En autorisant aussi la lecture, en suivant le texte avec le doigt ou avec un livre de lecture, souvent dit suivant le texte avec le doigt, etc. Mais justement, ils en ont besoin pour se repérer dans l'espace. En autorisant aussi la sous-vocalisation, on ne dit pas arrête de lire, lis dans ta tête, ce qu'on entendait avec les CP, dans les CP. Non, encore, c'est pas là. En autorisant la lecture des œuvres littéraires par un tiers. C'est pas parce qu'on est, grand qu'on doit lire le livre tout seul. Il faut que la lecture reste un moment de plaisir. Il faut trouver son aménagement. Si le temps de lecture, il est avec les parents, et puis on se passe le relais de temps en temps, on en lit un petit bout, etc. Il faut à chacun trouver son rythme. Le tout, c'est que, bah voilà, que le moment de plaisir de lecture, il soit là. Donc ça, c'est important d'en discuter avec eux et puis de trouver ce moment. Il y a aussi, avec les sites internet, il y a des logiciels qui permettent de trouver des œuvres littéraires qui sont déjà, comme Audiocité, qui sont déjà enregistrées. Donc ça, parfois ça facilite le travail, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc quand elles ne le sont pas, et ben, effectivement on peut avoir recours à un tiers. De même aussi par rapport à la lecture orale, on se trouve souvent face à une difficulté quand on a les petits élèves qui on sait en difficulté justement par rapport à la lecture et puis qui demandent à pouvoir absolument lire en classe. C'est difficile. On essaie qu'ils lisent un texte qu'ils connaissent de façon à ce que bah voilà, qu'ils puissent voilà, qu'ils soient en réussite par rapport à cette lecture. Quand on parlait des exercices, des écrits qu'on proposait, on les pense un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on va donner, par rapport aux consignes, par exemple, qu'une seule tâche à la fois. Les multiples consignes lit, entoure le sujet, et puis après, ou encadre le verbe, et après, souligne le sujet, etc. On va décomposer tout ça. On va d'abord, si on travaille sur le verbe, on va chercher le verbe. Après, on va passer au sujet. Et on ne met pas tout dans la consigne, on les reprend une à une.
Le sens des mots est encore plus important là. On disait ce matin que le précoce était très attaché au sens pointu des mots. Le dyslexique va avoir besoin de consignes une à une, donc le sens des mots va être encore plus important.
On va essayer, si on peut, d'éviter toujours de passer par la tâche d'écriture qui est difficile et parfois le travail que sur des vignettes de manipulation à pointer, etc., peuvent aussi offrir des soulagements pendant la journée, de ne pas toujours passer par l'écrit. Parce que plus on va gravir un petit peu dans la scolarité de l'enfant,
plus il va avoir besoin d'écrire, mais ça, on s'en rend déjà compte entre le cycle 3 et le cycle 2, hein, c'est-à-dire les premiers apprentissages, et puis après qu'on va passer en fin d'année, en fin de programme primaire, on sent les parents qui nous disent, bah voilà, là je sens, maintenant ils commencent à avoir du mal, etc. Donc on essaye aussi de soulager les cris comme cela. Oui.
Je fais une petite parenthèse. Au collège, quand l'écrit devient un petit peu trop important, on a trouvé, grâce à nos ergothérapeutes du Loiret, un truc qui est génial, c'est le scanner portable. Et plutôt que d'avoir à recopier au tableau les leçons en mettant des trous dans les mots, voire même dans les textes, on leur demande simplement d'écouter, d'apprendre à écouter, pas à s'ennuyer. Et ensuite, ils scannent en quelques secondes la page du cahier d'un copain qui écrit bien, et ils ont un cours propre et utilisable pour rentrer et travailler à la maison. Donc ça, c'est un truc assez génial.
Parce que le travail à la maison, il n'est pas tout seul. Là, on parle de faire des écrits dactylographiés. Quand ils scannent, je vois bien que vous vous dites que ce n'est pas dactylographié, puisque c'est le cours du copain et c'est une écriture, etc. L'apprentissage des cours, des leçons, j'oserais même dire la refonte des cours, lorsque le dyslexique, le précoce dyslexique n'est pas accompagné, il faut que ce soit les parents qui reprennent les cours. Un exemple, jusqu'en quatrième, en tout cas en sixième, cinquième, je retapais tous les soirs les cours de mon fils en histoire géo, en SVT, en physique. Je n'avais pas le choix, sinon il était incapable de pouvoir apprendre ses cours. Il y avait un mot sur 10. Donc, en le scannant, vous soulagez, en acceptant que l'enfant scanne le cours, on soulage l'enfant, mais on soulage tout le monde. L'enseignant, parce que son élève va pouvoir apprendre, mais également la famille, parce que l'enfant va prendre beaucoup moins de temps pour travailler le soir.
Madame parle aussi de la clé USB qui fonctionne assez bien, peut-être pas dans tous les collèges et dans toutes les matières. Donc il y a un mix entre les deux, ça peut être quelque chose de très intéressant. Les ENT. L'accès à l'environnement numérique de travail peut aussi faciliter les choses à l'enfant parce que les ressources seront placées dessus. Il y avait une autre question. Oui. Alors, la photocopie, c'était toujours la chose qu'on demandait principalement dans les équipes éducatives, et on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui, pour certains enfants dyslexiques, était très très lourd. Parce qu'il fallait anticiper la demande du cahier. Pendant qu'ils étaient en changement de cours, en récréation, il fallait aller faire les photocopies. Et du coup, ce sont des enfants qui sont régulièrement privés de leur temps de pause pour pouvoir avoir leur cours propre. Alors que le scanner, évidemment, c'est un investissement financier, mais le scanner leur donne l'autonomie, ça scanne en classe, ça ne dérange personne, le cahier est rendu dans l'instant, et ils peuvent profiter aussi du temps de repos dont ils ont excessivement besoin. Mais effectivement, à part défaut, quand il n'y a pas de scanner, la photocopie, c'est aussi quelque chose de très pratique. Oui ?
Dans un collège dans les Yvelines, ils ont mis en place des règles de scanner. C'est un peu le même système.
C'est ça, on parle de ça.
Ils sont plus en charge économiquement, ils ont des budgets, en fait. Ils n'ont jamais de budget, donc ils n'ont jamais de budget, mais ils ont des budgets pour les dyslexiques, là, pour faire un scanner.
Vous avez entendu ce que madame a dit ?
Non, j'ai entendu.
Alors, il y a des établissements scolaires, des collèges scolaires dans les Yvelines, où les scanners dont Virginie parlait, c'est une règle scanner, qui sont financés par les établissements dans les Yvelines.
Le cours et de boucher les trous quand c'était nécessaire. C'est aussi une solution. On va en parler.
Par contre, pour la révision dont tu parlais, pour le travail à la maison, en tout cas pour le travail en classe, on parle de manipulation. À la maison aussi, la manipulation est très importante pour la révision. Un exemple, au collège, l'apprentissage de l'anglais, précoce dyslexique, on apprend l'anglais, je ne vous dis pas comment c'est drôle. Donc, le vocabulaire, il faut l'apprendre, c'est un peu compliqué. Le code couleur est très très utile, et la manipulation de vignettes. Créer avec l'enfant des petites vignettes, enfin des papiers en carton, en papier, ce que vous voulez, avec les mots de couleurs différentes en fonction du verbe, sujet, complément. Et lorsqu'il a un cours à réviser ou du vocabulaire à apprendre, il manipule ses vignettes. Il va chercher sa vignette de couleur bleue dans la boîte faite pour le bleu. Il va chercher ses vignettes de couleur rouge. Du coup, souvenez-vous ce qu'on a dit, lorsqu'on se remet en situation d'apprentissage, au moment du contrôle, l'enfant va mémoriser beaucoup plus rapidement et il sera moins en situation d'échec devant sa feuille blanche.
Et comme souvent, il a une pensée qui est en image, de pouvoir avoir manipulé les vignettes avec le mot écrit, la vignette mot écrit, la vignette dessin, ça l'aide à se souvenir.
Donc, vous récupérez les informations des cours, hein. Il y a le lien avec le professeur, en général, qui vous envoie par mail.
On va parler maintenant des contrôles.
Dans les aménagements des écrits, moi je vais revenir avec. Donc, parce que là, ce qu'on évoque, évidemment, c'est plus au niveau du collège, moi j'étais avec le primaire, avec les aménagements aussi des écrits auxquels on peut penser. C'est aussi par rapport aux exercices qu'on va proposer aux enfants dans la lecture, aussi de simplifier certains mots de vocabulaire qu'on va leur proposer. On ne va pas seulement changer la taille de la police, la répète, etc. C'est-à-dire que le mot de la petite phrase, où il va y avoir une conjugaison, etc. Si dans la phrase on propose Yannick, on va transformer par Léo, et si on a vu, on constate, on va mettre, on voit la place, on va repenser l'exercice qui est proposé pour ne pas le mettre dans une difficulté de lecture en plus de ce qu'on lui a proposé. On va lui proposer des textes différents, c'est-à-dire que pour mes petits élèves, l'exercice après la phase de découverte, l'exercice d'application que je devais avoir à leur proposer, je vais l'avoir préalablement préparé, disons, sous la forme que je voulais présenter tout à l'heure, et lui n'aura plus qu'à compléter la notion que je travaille, c'est-à-dire qu'ils vont se soulager par rapport à tout le reste. C'est-à-dire que quand les autres vont en application, ils vont être complètement autonomes parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Les enfants qui sont dans cette situation vont travailler avec l'enseignante, poser, et là on va reprendre la lecture de la phrase ensemble, et on va dire, bon ben, maintenant qu'est-ce qu'on met dans ce petit trou, ce qui manque, etc. L'exercice va être amener à l'enfant différemment. On va soulager tout cet écrit. Des exemples aussi de soulagement par rapport à la dictée. Et là, oui, tu peux. Type de dictée qu'on va proposer aux enfants, des dictées à trous, des dictées à compléter. C'est-à-dire que dans ma dictée, je vais travailler une notion ici sur les homophones. Voilà, la notion que je travaille, elle est là. Donc, tout le reste, tout le texte, je vais lui fournir, et il ne va travailler au moment de la dictée que l'homophone, et poser son attention que sur l'homophone à travailler, en l'occurrence son nom, etc., de façon à soulager. Une autre présentation possible, c'est à choix multiple, c'est-à-dire qu'on va présenter le texte cette fois-ci avec tous les homophones, et on n'a pas entouré celui qui correspond à la bonne orthographe. Un autre type d'exercice aussi qu'on peut travailler avec eux, c'est tous les exercices, parce que finalement, on s'aperçoit que régulièrement, on leur demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écriture tout au long de la journée, et quand c'est difficile, et ben voilà, l'exercice est fastidieux, il est fatigant. Donc un type d'exercice auquel on peut avoir recours aussi, c'est relier des mots. Finalement, ça simplifie la tâche, et pour l'enseignant, pour l'évaluation, ben, on obtient la même chose, on a ce qu'on veut, on peut savoir si... s'apercevoir s'il a cette connaissance ou pas. Oui.
Je voulais juste savoir si ce type d'aménagement se répertorie dans le PPD, si c'est le ressort de l'enseignant au moment de sa phrase.
Ben, en fait, Moi, je dirais que je suis un peu à cheval entre deux parce que je suis en cycle 3 et souvent, je suis en cours de dépistage pour mes élèves. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment toujours encore posé où on y est. Et comme, voilà, on essaye d'aménager, on essaye... Mais c'est proposé par le BP10, oui.
C'est ça, on peut faire des suggestions dans le BP10. Après, l'imagination des enseignants, vous en avez beaucoup d'imagination. Vous êtes... je suis sûre, très créatif, vous nous montrez assez souvent, et vous pouvez créer des cours et des contrôles très adaptés en fonction des enfants. Simplement, le BP10 va permettre de faire des propositions.
Mais ne se pose réellement quand c'est possible qu'à partir de la fin du CE2. Et donc avant, parler de dyslexie, on lui met des guillemets. Et puis après, effectivement, si c'est possible, on le pose fin CE2, mais ce n'est pas toujours possible, surtout avec les précoces. Donc du coup, c'est très difficile avant la pose du diagnostic de pouvoir adapter, parce qu'on ne sait pas si l'enfant est vraiment dyslexique ou si c'est autre chose, et c'est là tout le problème.
Donc avec les enfants précoces,
malheureusement, il n'y a pas de solution.
On sait aussi qu'avec les enfants précoces, ils sont demandeurs, ils sont intellectuellement intéressés. Et par rapport aux exercices qu'on propose en classe, on y a un côté assez répétitif par rapport à tout ça. Et il faut penser justement à varier cette forme pour éviter cet aspect répétitif. Vous avez parlé tout à l'heure de l'outil numérique auquel on peut avoir recours, parce que maintenant on l'a quand même plus facilement en classe. Et puis, choisir des textes ou des phrases qui permettent à la fois aux enfants d'acquérir de la notion, mais aussi qui lui apportent, pour lequel ils vont avoir de l'intérêt de penser au sens, et ne pas s'arrêter sur des phrases, un peu dépourvues d'intérêt, mais qui sont uniquement pour travailler la notion.
On se faisait une réflexion pour les enfants qui ne sont pas encore dépistés, mais qui bénéficient d'un suivi orthophonique, les choses entre eux, l'instit et l'orthophoniste.
Donc il va falloir, maintenant qu'on a parlé des écrits, aussi favoriser la mise en œuvre de ces écrits, c'est-à-dire qu'on va permettre aux enfants de travailler sur les consignes, pas uniquement lui donner la consigne comme ça, on le fait régulièrement en tant qu'enseignant, c'est de lire les consignes, de vérifier qu'ils l'ont compris, etc., pour qu'ils se lancent, et de la reformuler au besoin avant de se lancer dans le travail. Et puis laisser du temps également pour la transcription écrite et leur permettre un petit peu plus justement que les autres pour que ce temps de relecture puisse se faire. Aussi, revoir un petit peu ces exigences, autoriser la production d'écrits par le biais d'un tiers pour lui permettre des productions d'écrits. Et par rapport à, là justement, je vais revenir, en fait vous évoquiez tout à l'heure la prise de notes, effectivement proposer une trace écrite, une photocopie d'un cours pour faciliter l'apprentissage et le fond en soi. C'est vrai que c'est pas toujours facile en classe, puisqu'en même temps, quand l'enfant prend des notes ou quand l'enfant copie la leçon, si on fournit la trace écrite, l'enfant est comme ça, puis finalement, il n'y a rien à faire. Donc, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, la solution
en fait, que j'ai pu trouver, bah, c'est ce type d'aménagement, soit laisser des choses à compléter, si les mots de vocabulaire, si l'écriture est suffisamment lisible, ou en tout cas la mise en couleur. On sait que ces enfants ont besoin de se repérer, etc. Donc, pendant que les autres copient, bah, c'est de repérer, bah, par exemple, le titre, on le met toujours dans la même couleur, les mots de vocabulaire importants, on les souligne, peut-être dans un code couleur, etc., de façon à ce qu'ils s'approprient sa trace écrite, parce que, me semble-t-il, c'est pas uniquement d'avoir la trace écrite, et puis voilà, il faut qu'il, ben, profiter de ce temps-là pour pouvoir faire sienne sa trace écrite, et puis, en la retrouvant à la maison, que ça puisse faire écho. Donc ça, effectivement, même avec les petits, ça fonctionne. Enfin, les petits pour moi, les cycles 3, ça fonctionne bien de pouvoir, comme ça, travailler sur sa trace écrite. Ce qui peut fonctionner aussi, et puis soulager hein, l'enseignant, parce que j'y viendrai après, c'est parfois le tutorat avec, dans la classe. Même si c'est difficile pour un enfant, c'est que tous les enfants ne sont pas tuteurs très vite. Il faut être plus âgé pour être tuteur. On ne fait pas à la place de l'autre, mais on essaie de l'aider à faire, mais parfois ça peut être une l'aide ponctuelle, l'organisation de cartables le soir, la lecture dans le cahier de texte pour se reporter à demain. Moi je travaille à temps partiel, donc quand je suis là avec le jeudi et que j'ai noté mes devoirs, c'est pour le lundi, parce que le vendredi je ne serai pas là, mais juste après on fait le cartable pour vendredi. Là, c'est un peu difficile. Bon, là, un tuteur peut être à côté, puis dire, on prend le cahier, on prend sa tâche de vendredi, qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce que je mets, etc. Ça peut permettre de soulager et puis de s'organiser pour l'enfant. Proposer aussi peut-être différentes traces écrites aux enfants. On a plutôt classiquement l'habitude de proposer des traces linéaires aux élèves et pas tellement sous forme de schéma. Il arrive avec les élèves de les construire et s'apercevoir que ça leur parle parce qu'il y a peut-être moins de textes à lire. Oui, par exemple, une leçon de grammaire, on va plutôt que de... Oui, vas-y, tu peux. De présenter la leçon d'une manière linéaire, qu'est-ce que la phrase, etc., et de faire tout un long discours. On disait qu'un schéma vaut mieux qu'un long discours. Et bien là, de présenter cette phrase écrite sous cette forme-là, synthétiser quel est le mot important, et ça fait appel à... Et voilà, on peut poser des choses, et ça peut être une présentation de la phrase écrite. Et c'est vrai qu'au début, quand je l'ai présenté, j'ai fait des essais, comme ça, en disant... Et après, finalement, j'avais des petits élèves qui me disaient, bon, on refait la marguerite, on refait sous cette forme-là, parce que finalement, ça nous parlait plus. Mais une fois de plus, c'est au cas par cas ce que je vais proposer à un, va peut-être en parler à l'autre. Donc, c'est adapté à chaque fois en fonction de l'enfant. Nous, en tant qu'enseignante, il faut revoir aussi ses attentes, puisqu'on est amené à expliquer davantage le pourquoi de l'exercice avec un enfant précoce, en tout cas dyslexique, pour lui donner du sens au travail lui-même. Donc, nous, ce qui nous paraît pour nous très clair et puis implicite dans notre exercice, ce n'est pas toujours, et il faut penser à le dire. Tout à l'heure, je disais, et ça, en collaboration avec ma collègue de collège, me disait que, par exemple, les mots de vocabulaire au collège, elle allait plus les expliquer, leur donner du sens par rapport à leur étymologie, pour expliquer l'orthographe, pour qu'ils aillent un petit peu plus loin. Pensez aussi à solliciter davantage ces enfants pendant les cours, parce qu'ils se laissent très vite emporter par leurs pensées et les ramener régulièrement à ce que l'on fait. Donc en les sollicitant verbalement. Nous, en tant qu'enseignants, on doit veiller aussi à ce que notre notation concerne uniquement la compétence visée et pas la sanction de l'orthographe, même si des fois ça nous dérange, pour ne pas soulever ce sentiment d'injustice. C'est vrai que c'est dur quand on voit la copie avec, quand tout à l'heure je vous présentais une dictée, quand on voit que ces mots-là, et si on l'a présenté, si cette dictée-là j'aurais fait écrire et tous les autres mots sont faux et mes homophones sont bons, c'est quand même dur de dire « Ah oui, dictée bien réussi, c'est difficile. » Donc, pour ne pas se mettre dans cette situation, présentons l'exercice de façon à être cohérent par rapport à nous-mêmes. Reconnaître leurs difficultés, leur sentiment d'être incompris. Mauvaise interprétation, en fait, de la précocité, c'est difficile pour les enfants à le vivre. Combien de fois, et je trouve ça douloureux, quand les enfants arrivent enfin avec un diagnostic, je dis enfin, parce que quand ils ont cheminé comme ça en primaire et qu'on arrive comme ça en cycle 3 et qu'enfin on pose les choses, Oui, ça fait du bien. Et c'est vrai que quand on fait un changement, parfois c'est du jour au lendemain. On ne retrouve plus le même élève parce qu'il a trouvé, il a compris un petit peu ce qui lui incombait. Et voilà, on va pouvoir, on met enfin des mots sur des mots.
On dit enfin qu'il n'est pas responsable.
Oui. Ce qui nous permet dans ces cas-là.
Les parents non plus ne sont pas responsables à partir de ce moment-là.
Ce qui nous permet à ce moment-là d'expliquer aux autres la dyslexie, d'expliquer aussi les aménagements qu'on fait. Pourquoi c'est tel enfant qui va toujours avec la maîtresse, qui s'installe dans un petit coin de la classe pour travailler. Pourquoi ben, parce qu'effectivement, on travaille avec un groupe et que ce n'est pas facile à gérer parce qu'il n'y a pas que les dyslexiques, il y a d'autres difficultés. Il y a aussi des enfants qui vont très très bien et que pour qui ça va vite. Et puis, il y a ce sentiment parfois d'injustice parce que la maîtresse est avec ce petit groupe-là ou avec cet enfant-là et puis il faut donner à manger à tout le monde. Donc, ce n'est pas facile et ça permet d'expliquer les choses quand aussi le diagnostic est posé. Par rapport aussi aux devoirs à la maison, le fait que quand le diagnostic est posé, ben, ça permet de revoir un petit peu les choses, les exigences, même si on sait que depuis des années, on ne demande plus d'écrit, on sait que dans les faits, c'est pas vrai. Et puis que de toute façon, au collège, on leur en demandera, donc on apprend aussi à s'organiser. Eh bien, on peut revoir les exigences par rapport aux enfants, donc il y a un véritable dialogue. Tout ça pour vous dire que ça permet, de, en tant qu'enseignant, bah, de poser des choses, de mesurer aussi les difficultés et puis les limites de cet aménagement, parce qu'à chaque fois on découvre, à chaque fois on essaye, à chaque fois on tâtonne, rien n'est gagné. Ce qu'il faut quand même dire, parce que j'entends si, on n'a rien fait, etc. L'aménagement, il est très très lourd aussi pour l'enseignant. Ça veut dire que, quand je vous disais les exercices, il faut les préparer en classe. Il faut les préparer tout en amont. Il faut les reprendre un à un, les rescanner, les représenter différemment, revoir le contenu des mots, etc. Quand on est en primaire, ben c'est vrai qu'on pense au français, mais non, on les a partout, on les a en maths, on les a en histoire géo. Donc ça veut dire que les cartes de France, on va peut-être faire des aménagements. Donc c'est ça tout au long de la journée, donc il faut y penser. Donc quand même, pour l'enseignant, c'est quand même lourd. On a donc une anticipation importante, c'est-à-dire qu'au moment où on va donner le texte, c'est que le texte, il est prêt, il est là, et on lui donne parce qu'il a été photocopié avant. Après, il y a l'exercice qui suit, qui est d'application, et après, et c'est comme ça toute la journée. Donc ça, c'est quand même important, et bon, voilà, ça demande à l'enseignant d'être prêt, et puis d'avoir anticipé tout ça. On n'est pas formé, hein. J'avoue ne pas avoir été formé à cette difficulté. Je me forme au fur et à mesure, par intérêt, mais en tout cas, on n'a pas cette formation de base. Et puis, par rapport aux aménagements, aux difficultés, il faut savoir cibler aussi, les aménagements. On est toujours en train de se demander est-ce qu'on fait bien, est-ce que ça va correspondre à l'enfant, à ce qu'il attend. Et d'où l'importance du dialogue aussi, on le disait tout au long de la journée, du partenariat entre l'enfant et l'enseignant. Et ça, de multiplier les rencontres au fur et à mesure de l'année pour savoir, parce qu'un aménagement du début d'année ne va peut-être pas être le même en fin d'année. Il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Et puis donc savoir doser l'aménagement parce qu'une année ne fait pas l'autre et on ne sait pas comment l'aménagement va être fait après. Donc il faut aménager mais il faut aussi donner les moyens de l'enfant de se repérer dans cette scolarité et savoir aussi de prendre des outils, des moyens pour se débrouiller tout seul. Donc voilà, c'est pas très simple, on essaie mais on y arrive quand même dans la classe.
Et tout ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas de communication entre les enseignants et la famille. Parce que le dyslexique, il est à l'école, le dyslexique précoce, il y est au quotidien. Et évidemment, s'il n'y a pas de communication entre la famille et l'école, le précoce, il vient bien gentiment s'engouffrer dedans. On l'a dit ce matin, on l'a redit cet après-midi, la manipulation chez le précoce est très présente, donc il faut l'avoir en tête. Le fait de communiquer également avec l'enseignant, il faut avoir en tête que chacun a une vision différente de l'accompagnement de l'enfant. En tant qu'enfant, en tant que parent, vous accompagnez votre enfant. En tant qu'enseignant, vous accompagnez un élève. Donc vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'avez pas les mêmes exigences. Et il est important de se mettre d'accord sur comment on voit l'enfant et vers quoi on veut aller. La communication est vraiment, vraiment indispensable pour le bien-être de cet enfant. Et pour finir sur les aménagements, je dirais que les aménagements, lorsqu'ils sont possibles, lorsqu'ils sont pensés et mis en place, permettent à l'enfant précoce, dyslexique, non pas de suivre une scolarité, mais d'obtenir des outils pour choisir son chemin dans sa vie.